Palestine ici, Palestine là-bas. Ravi de vous retrouver ce soir à travers notre émission. Alors, pour rappeler un peu l'émission de ce soir, qui traite spécifiquement de la Palestine, de la question palestinienne et de ce qui s'y passe. Donc, on avait eu l'habitude et on continue à inviter des personnalités, des personnes qui traitent de sujets, de thèmes, en fonction de l'événement et en fonction de la problématique qui nous intéresse dans un premier plan. Du coup, moi, j'ai invité ce soir Michel, qui nous revient de Palestine et qui va venir témoigner de ce qu'elle a vu, de ce qu'elle a entendu. Donc, c'est un voyage qui s'est passé en décembre, une douzaine de jours, avec un petit groupe d'une douzaine de personnes. Donc, Michel, je te laisse te présenter, et puis tu nous fais un petit compte-rendu, puis au fur et à mesure, je te poserai les questions nécessaires concernant cette question.
D'accord, bonsoir. Donc, j'ai fait ce voyage, oui, c'était un trek avec point voyage. Un trek qui a été élu, qui a été primé en 2018, et donc qui attire quand même des touristes. Donc c'est le côté intéressant, quoi, aussi, voilà, de faire. Ça leur permet de venir découvrir un pays et découvrir à travers ça la vie des habitants. Voilà. Mais c'est vrai que moi, j'étais informée un peu de ce qui se passait là-bas parce que je fais partie du collectif 69 Palestine. Mm-hmm. Donc, mais c'était vraiment un choc. Quand je suis revenue, j'ai vraiment eu du mal. J'étais vraiment, oui.
Alors, quand tu dis un choc, c'est ce que tu avais l'habitude d'avoir comme information, puisque tu fais partie d'un collectif qui, justement, se bat et solidaire avec les Palestiniens. Mais c'était aussi de voir ça, d'être informé, puis d'aller sur place.
Oui.
Il y a eu un sorte
découvrir
de...
Découvrir voilà, vraiment la réalité.
La réalité des Palestiniens.
Donc, alors, de voir, par exemple, ces queues au checkpoint, de voir ces enfants de Hébron qui se font fouiller les cartables en sortant de l'école, ces destructions de maisons aussi que les Palestiniens n'ont pas le droit de reconstruire. Il y avait aussi... l'interdiction pour les Palestiniens d'aller à Tel Aviv, d'aller prendre l'avion. Il y a plein de choses comme ça. Et puis, les colonies, l'extension des colonies, la façon dont ils...
Alors, pour revenir un peu à ton séjour, quand tu arrives à... Je suppose que tu as atterri à Tel Aviv. Mmh. Ensuite, le parcours que tu t'étais fixé ou avec le groupe...
Nous ne sommes pas restés à Jérusalem parce qu'on avait des guides palestiniens. Mmh. Donc, nous sommes allés à Bethléem, où on a découvert donc le mur.
D'accord. Alors, le mur, c'est vrai que quand on entend parler du mur, on voit une sorte de mur comme ça, de plusieurs mètres de haut, mais qui s'étend sur toute la Cisjordanie, qui est de plusieurs centaines de kilomètres. Mm-hmm. La réalité de ce mur, parce que quand on dit le mur de l'apartheid, ça, ouais, c'est un mot qui porte et qui a tout son sens. Mm-hmm. Quelle réalité il a sur le quotidien des Palestiniens ?
Mais disons que les Palestiniens ont un checkpoint pour passer de Bethléem à Jérusalem. Ils ont un checkpoint.
D'accord.
Qui passe tous les matins. Il faut une carte de travail pour passer le checkpoint. Et même en voiture...
C'est plus qu'un contrôle de douane.
C'est plus qu'un contrôle de douane, oui. Ah oui, puis tous les matins, ils sont tenus de présenter leur
justificatif de travail pour traverser le mur. Oui. Et je suppose les délais.
Et de Hébron, ceux de Hébron, les Palestiniens de Hébron viennent aussi jusqu'à ce checkpoint. D'accord. Pour aller à Jérusalem.
Alors moi, j'avais aperçu sur des photos qu'il y avait beaucoup de Palestiniens devant dans les files d'attente et sur ces checkpoints. C'est une réalité. Et les délais d'attente, c'est...
Ben, le matin, pour aller au travail, oui, il y a des files d'attente.
Ah ouais. C'est terrible.
Alors nous, bien sûr, on a pu passer sans problème dans la journée. Voilà, on a vu ce que c'était, quoi, avec les caméras, avec tout ça. Quoi.
D'accord.
Ouais. Et ce mur, il serpente, il va, c'est incroyable, comme il serpente, il va contourner une maison, il contourne un champ. Donc il fait 8 mètres de haut, c'est impressionnant, quoi, et avec des barbelés, avec des miradors, avec...
D'accord.
Et c'est marrant, on est allé voir ce mur, parce que c'est, en même temps, les Palestiniens, pour eux, c'est un mur d'expression. Artistique et politique. Ouais. Et d'accord. Vraiment, il y a des magnifiques fresques. Il y a notamment les fresques de Banksy.
D'accord, on a vu ça sur Internet.
Ouais, c'est magnifique, voilà.
C'est un mur qui sépare les deux parties, qui est de quelques dizaines de mètres. Mais des fois, il faut le contourner ou aller d'un checkpoint à un autre. Qui, des fois, peut être amené aux Palestiniens de faire des kilomètres,
oui,
c'est ça?
Oui, puis par des routes pas très bon état, quoi, toujours en très bon état. Parce qu'il y a les routes réservées aux Israéliens, il y a les routes palestiniennes, quoi.
D'accord. Alors, tu nous as parlé du mur, mais les villes que tu as traversées, Bethléem, Ramallah, je crois?
Non, Jéricho.
Et tu as fini par, on en viendra à la deuxième partie, Hébron. Le rôle des colons envers les Palestiniens, chose que tu as pu voir, la brutalité de ces colons envers les Palestiniens, si tu peux nous en dire.
Un truc qui m'a un peu choqué, c'est la façon dont ils colonisent, comme ils s'installent. Ils construisent une rangée de maisons sur une colline, en haut d'une colline. Alors on les reconnaît, c'est des maisons avec des toits rouges. Ils construisent une rangée de maisons et ils font un mur en dessous. Donc on se dit, bon, ils vont s'arrêter là. Mais non, ils recommencent en dessous. Ils reconstruisent une rangée de maisons et ils refont un mur. Et petit à petit, comme ça, ils grignotent.
Et ce mur, c'est quoi ça? C'est pour marquer une séparation?
C'est un mur pour se protéger des Palestiniens.
D'accord, ouais. Ouais, donc,
Alors c'est eux qui sont armés, voilà. Mais c'est un mur, oui, de clôture de leur propriété, quoi.
Une sorte de leur
annexion.
Ouais, une sorte de citadelle.
Voilà, voilà. Puis en même temps, ils s'installent sur des collines et ils encerclent un peu les villes. Et puis ils captent l'eau, quoi. Ils captent l'eau et ils renvoient leurs poubelles, leurs eaux sales en bas, quoi.
Et donc, alors du coup, les Palestiniens, comment ils le vivent? C'est-à-dire, quand ils voient ces colonies, l'extension que ça prend
C'est difficile parce qu'on n'a pas eu énormément de rencontres avec les Palestiniens, puisqu'on a fait ce trek. Mais il y a quelques fois, on avait l'impression qu'ils étaient un peu résignés, quoi. Et qu'ils essayaient de s'adapter un peu, Mais on voit bien en même temps toutes les humiliations quand ils passent les checkpoints, leur interdiction de prendre certaines routes. Notre guide qui voulait venir en France, il n'a pas le droit de prendre l'avion à Tel Aviv, il faudrait qu'il aille en Jordanie. En Jordanie, c'est pas le même aéroport, il n'y a pas de vol low cost, donc ça va lui coûter une fortune.
Et, d'accord, ouais.
Voilà,
les difficultés pour se déplacer. Alors le rôle des colons et le rôle de l'armée, parce que ces gens-là sont très bien protégés par les militaires.
Oui.
Et si tu peux nous en dire un peu.
Les colons, c'est des ultras qui sont peuplent les colonies. C'est des ultras qui passent pratiquement leur journée en prière et qui sont payés par le gouvernement israélien. Mais ils sont là parce qu'ils considèrent qu'ils sont chez eux.
D'accord.
C'est
pour eux, c'est une...
C'est chez eux.
C'est leur terre.
Ouais,
d'accord.
Ouais. Et oui, il y a une falsification de toute l'histoire du peuplement de Palestine par rapport à ça. Quoi.
Et puis en même temps, il y a toute une propagande pour faire accepter justement ce mythe.
Oui, bien sûr.
Et alors du coup, c'est ce que tu as vu. Et après, le rapport alors, avec les habitants, parce que tu parlais d'humiliation des Palestiniens au quotidien, mais ce genre d'humiliation, c'est quoi? Ça va à la brutalité, ça va à l'humiliation par la violence, par des gestes, par des insultes
Ça, on ne l'a pas vu, mais par exemple les Bédouins. Les Bédouins à qui on a confisqué leurs terres parce que les terres doivent être cultivées, d'après les Israéliens. Voilà. Et eux, ils ne cultivent pas parce que c'est des terres de pâture. Donc, ils n'ont plus de terres. Ils sont regroupés dans des petits villages qui n'ont même pas de nom. Même eux, ils ne sont même pas reconnus, ils n'ont même pas le droit de vote. Et tous les jours, on nous a dit que tous les jours, il y avait une maison qui était détruite. Parce qu'on ne leur donne pas le droit d'exister et ils n'ont pas le droit de construire une maison.
Ça veut
Tous
dire
les jours, ils subissent ça, quoi.
Ils leur détruisent la maison pour ensuite les déloger, voilà. Les faire partir.
Voilà.
Et ensuite, pour voilà. reconstruire pour oui. reconstruire.
Et on nous a dit que même, c'est arrivé à des Bédouins. Ce jour-là, il y avait une visite de touristes. De touristes. Était présent et ça n'a pas empêché quand même les tanks israéliens de venir démolir la maison des Bédouins.
Alors oui, il y avait eu cette... surtout dans le quartier à Silouane, et il y avait encore un autre quartier
Rachida,
ouais, où on délogeait les Palestiniens et ensuite on détruisait les maisons.
Oui, ça on l'a vu à Hébron.
D'accord.
Aussi, oui.
D'accord. Donc ça, c'est ce que tu as vu, on est toujours à Bethléem, et ensuite à... Alors, le quotidien des gens de Ramallah, des gens de Bethléem, par rapport à cette situation qu'ils vivent au quotidien, comment... Je ne sais pas si tu as pu discuter avec...
Pas trop, mais ceux qui travaillent en Israël, c'est le problème de leur trajet, ils ont toujours le problème de leur trajet. Mmh. Et après, ceux qui arrivent à travailler sur Bethléem, ils se trouvent quand même assez fortunés, assez tranquilles, quoi.
D'accord.
Donc c'est pour ça que je disais, ils s'accommodent. On a l'impression qu'ils s'accommodent un peu, mais bon, c'est difficile de dire ça parce qu'en même temps, il y en a un qui nous a dit une fois, on va à l'abattoir, quoi. Alors voilà,
quand il disait on va à l'abattoir, ça veut dire que quand il se...
Quand on a parlé on a parlé un peu plus de la présence israélienne et puis de la colonisation qui s'étendait et tout, quoi. Et puis, on a parlé aussi de l'international, les réactions internationales. Voilà.
Et
le mur qui est interdit, par exemple, mais qui continue. Parce qu'on en est à 300 km, 400 km, ils vont encore en faire 300, je crois.
C'est là. La continuité du mur, là, elle est toujours effective. Ce que je veux dire, c'est que est-ce qu'ils sentent une solidarité à l'échelle internationale?
Ça, on en a parlé. Je pense que oui. Et puis on en a parlé avec donc les femmes dans le camp de Akabat Jabr.
Ouais.
On est rentré dans ce camp. C'est un des camps les plus anciens. Il date de 1948. Et c'est des femmes qui nous ont accueillies, qui tiennent une coopérative. Et une coopérative qui fait un petit peu d'artisanat et qui s'occupe beaucoup de l'éducation, de la santé des femmes et des enfants du camp. Voilà, et donc, c'est pareil, quand on leur a demandé ce qu'elles espéraient, ce qu'elles attendaient de l'avenir, elles avaient des besoins financiers, elles auraient voulu avoir plus de moyens pour faire plus au niveau de la solidarité dans le camp. Elles ne se voyaient pas sortir du camp, elles ne se voyaient pas... J'ai l'impression qu'elles rêvaient plus bien, quoi.
Alors après, tu as parlé
Et on a parlé, moi j'aurais parlé des actions qu'on menait en France, oui. Voilà, donc bon, elles ont été très, très touchées, très...
Très sensible.
Ouais, très sensible.
Et alors, tu as parlé tout à l'heure des Palestiniens qui allaient travailler. Il y a une sorte de dépendance économique. Mais est-ce que le côté, comme tu viens de dire, artisanal, la dimension économique palestinienne, elle est développée? Est-ce que tu as vu des coopératives? Est-ce que tu as vu des petites entreprises qui...
Oui. Un peu, les marchés, déjà. Les marchés, on voit que, comme à Bethléem ou d'autres... Il y a quand même, on voit qu'il y a des fruits, des légumes, on voit qu'il y a quand même l'abondance, quoi. Après, on a visité un des petits artisanats, un artisanat de verrerie.
D'accord.
Voilà, vers Jéricho. Et,
parce qu'à l'époque, il y avait aussi le... on a souvent ces retours avec notre camarade là, du Philistin, où il y avait, avec son film Saumoud, où on avait vu des coopératives qui fabriquaient du savon, qui fabriquaient
la
poterie,
oui.
qui fabriquaient des kéfiers.
Oui.
Il y avait toutes ces petites structures qui mettaient en valeur l'économie palestinienne.
Oui, mais je pense que le commerce se fait surtout sur local, quoi, niveau local.
D'accord, quand tu veux dire passe, local, il se fait en
Israël. Ah oui, parce que ou alors ça passe par les checkpoints, par Israël,
en termes de main-d'œuvre, en termes de travailleurs, les Palestiniens sont beaucoup à travailler pour les Israéliens ou
Mais je crois qu'ils sont beaucoup moins qu'il y a quelques temps. Il y en a qui refusent, il y en a qui n'ont plus envie.
D'accord. Qui dit se débrouiller par ses propres moyens pour développer
Des petits boulots. On a même vu, des petits boulots dans le bâtiment.
D'accord.
Il y a beaucoup de chômage.
On va faire une petite pause. Et on se retrouve dans quelques minutes. Et puis, du coup, je vais vous laisser écouter un petit morceau qui nous parle de la Palestine, Souris Palestine, interprété par Menel.
Le jour se lève après une nuit de bruit, le soleil et la nuit, des bombes émises au sol, écrasé, sort de Bosnie, vallée bosselée. C'était l'année dernière, c'était hier, c'était le mois dernier ou la nuit dernière. Le quotidien d'une misère, quand les tirs ne sont plus, nous pleurons nos mères, nos pères, petites sœurs, petits frères, petites rêves. Et si la terre couvre les cratères, nos peines entre nos prières. Nul besoin d'argent mais bien d'un peu d'amour, peu importe si lui est contre lui ou bien s'il est pour faire du salam et de Yom Kippour, voir les enfants jouer et courir loin des secours. La mère morte n'a jamais aussi bien porté son nom, car les terres qu'il aborde sacrifiées au canon. Pardon, mais pardon, comment compter tes morts et oublier ton nom. Palestine, 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 souris, Palestine, Palestine, Palestine. Que dire d'autre que ton nom et le crier aux horizons. Palestine, Palestine, laissez sourire la Palestine. Le même sourire derrière les mêmes larmes, la même détresse derrière les mêmes armes, la même tristesse derrière les mêmes charges, la même tendresse derrière les mêmes regards, les mêmes rancœurs derrière les mêmes colères, les pierres jetées en l'air entre ciel et mer. Pays condamné ou bien peuple banni, Gaza orpheline de Cisjordanie. Les oliviers des anciens déracinés, les enfants pleurent l'huile de leurs aînés, alors que les années ne cessent de filer, les fleurs d'El Aqsa ont toutes fané. Rien n'a changé, tout est figé, la paix après la guerre après la paix. Les mêmes roquettes, les mêmes rescapés, les mêmes debout et les mêmes happés. Palestine, 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 souris, Palestine, Palestine, Palestine. Que dire d'autre que ton nom et le crier aux horizons. Palestine, Palestine, laissez sourire la Palestine. Oui, tu es belle palestinienne, 7 ans déjà, tu vis dans la peine. Bientôt tu auras la paix comme marraine. Petit est ton pays, tu en es la reine. De Naplouse à Bethléem, la mosquée dorée, ton jardin d'Éden. Oui, tu es belle, oui, tu es frêle, comme ton pays, reine palestinienne. Palestine, 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 souris, Palestine, Palestine, Palestine. Dire d'autre que ton nom est...
Kala 100.9.
Palestine ici, Palestine là-bas. Donc ce soir, en présence de Michel, qui revient de Palestine, et qui a fait un parcours et un séjour d'une dizaine de jours. Alors le parcours, c'était des villes que tu as traversées, Ramallah, Bethléem. Et la deuxième partie de l'émission va être concentrée sur la ville d'Hébron. Alors Hébron, moi les infos que j'ai, c'est qu'en décembre, le ministre israélien de la Défense a annoncé son intention de doubler le nombre de colons à Hébron, ville palestinienne au centre historique déjà défiguré par l'occupation israélienne, où les habitants vivent comme assiégés par quelques centaines d'extrémistes sionistes. Cette réalité, tu l'as vue, tu l'as vécue, si tu peux nous en dire quelques mots.
Hébron, c'est l'horreur. Hébron, c'est vraiment un autre monde, quoi. C'est une ville qui est coupée en deux, et c'est une ville qui est grillagée.
Alors, quand tu dis grillagée, ce que j'avais vu sur les images vidéo, c'est que...
Au niveau du premier étage. Dès qu'un appartement est libéré au niveau en étage, les colons s'installent, s'en accaparent. Et les Palestiniens, oui, ont dû grillager au niveau du premier étage pour se protéger. Des déchets qu'ils recevaient, que les colons balançaient par les fenêtres.
Ouais, une façon de les humilier. Ouais.
Et il y a ces grillages, en plus, il y a des miradors. Il y a des miradors aussi.
Et encore une fois, ces extrémistes, ces colons sionistes sont protégés par les militaires.
Il y a 2000 soldats, c'est des tireurs d'élite, c'est des... pour 200 000 Palestiniens, quoi. Et il y a une rue entière, qu'on appelle maintenant la rue des Martyrs, qui a été... tous les commerces ont été fermés, les portes ont été soudées. Toute la rue c'est une rue morte, une rue fantôme. Alors, qui mène maintenant à une colonie juive.
D'accord.
Et c'est là qu'on a vu, par exemple, des maisons palestiniennes qui étaient détruites. Et il y avait deux personnes dans le groupe qui étaient venues à Hébron l'année dernière, qui ont constaté qu'en un an, déjà, les colons avaient reconstruit.
D'accord. Reconstruire, vider les Palestiniens de leurs maisons, s'en accaparer. Donc ça fait beaucoup, et puis ça va de pire en pire, c'est ça.
Les militaires sont omniprésents dans la ville. On se sent vraiment en prison, quoi. Enfin,
après, elle a une particularité, cette ville. Alors, l'intérêt de ces colons sionistes de s'en accaparer, c'est parce qu'elle a une dimension spirituelle.
Oui, parce que c'est le tombeau des patriarches, tombeau d'Abraham. Abraham, c'est le père de la religion juive et musulmane en même temps.
Le père des trois monothéistes.
Voilà. Donc il n'est pas.
Et puis la ville d'Hébron, en arabe, c'est le Khalil. C'est un des qualificatifs qui avait été attribué à Abraham, à Ibrahim.
D'accord. Alors, le tombeau des patriarches est divisé il y a deux entrées différentes, quoi.
Vous, pendant votre parcours, les difficultés de circuler, vous les avez rencontrées, ou est-ce que c'était assez... vous étiez assez protégé par rapport à...
On a pris les routes réservées aux Palestiniens.
D'accord.
On n'a pas pu prendre des routes israéliennes, Et même quand on arrive devant le tombeau des patriarches, les Israéliens peuvent venir jusqu'à devant l'entrée de la partie la partie de leur église.
Ouais.
Et de l'autre côté, les musulmans doivent venir à pied, ils n'ont pas accès en voiture, n'ont pas d'accès voiture.
D'accord. Donc la réalité, elle est frappante, surtout quand tu fais le distinguo, la différence entre les autres villes. Hébron, c'est vraiment une ville.
Hébron, la rue des Martyrs, c'est plein de drapeaux israéliens et plein des fresques. Des fresques aussi où les Israéliens demandent le droit au retour.
D'accord.
Voilà, c'est aussi...
D'accord. Et alors, tu as parlé du traitement, tu as parlé de... Et donc, cette ségrégation, elle est évidente, elle est visible. On voit le traitement qui est fait aux Palestiniens, surtout
C'est l'interdiction de passer là, c'est les fouilles, c'est les enfants qui sortent de l'école, les écoliers qui sortent de l'école, qui se font fouiller leur cartable. Quand même, c'est dur, quoi.
D'accord. Et tu m'avais dit que tu avais voulu rencontrer une personne.
Ah oui, alors avant de partir, j'avais lu son histoire dans l'Humanité, ce commerçant qui habitait au bout de la rue des Martyrs,
d'accord.
Donc, en face de du tombeau des patriarches. Et donc, je lui ai dit, je lui ai parlé, j'avais lu son histoire dans l'Humanité. Donc, il était tout heureux. C'était vraiment un moment intense, un moment d'émotion, vraiment. C'était... Et il résiste, c'est un monsieur qui résiste.
Alors, quand tu dis
parce que les Israéliens veulent le mettre dehors. Ils lui proposent 100 millions.
D'accord.
100 millions de dollars pour récupérer sa maison. Pour
sa maison, et puis il a
un commerce.
Il a un commerce.
Il a tout son commerce.
Et qu'est-ce qu'il vend par.
Ah, il vend tout plein d'artisanat, plein de produits palestiniens.
Voilà, la promotion.
Il a ses seuls clients, ce sont des touristes.
D'accord.
Les Palestiniens n'ont pas accès. Et les Israéliens, ils n'achètent pas les produits. Voilà.
D'accord.
Ben, c'est les touristes seulement qui le font vivre.
C'est bien parce que c'est des moyens de résistance à travers le fait de rester, de ne pas se faire, acheter, puisque aujourd'hui c'est aussi
c'est
le
ça,
but, ou les faire sortir par la force, ou les acheter à travers des sommes alléchantes pour qu'ils quittent les maisons.
Mais
ce moyen de résistance, pour moi, il est à saluer.
Il est considéré comme un héros là-bas
C'est bien.
C'est bien, oui. Donc tu as bien apporté mon soutien.
D'accord. Et du coup, l'émission touche à sa fin. On a été ravis de te recevoir. Et puis surtout, les témoignages sont toujours importants, puisqu'ils nous rappellent une réalité. Puis en même temps, c'est toujours ce qu'on apprend, ou quand on est informé sur la question de la Palestine, ou sur la Palestine, c'est toujours à travers ce qu'on lit, ce qu'on découvre, ce qu'on... Mais les témoignages vivants sont quand même une bonne expression, et puis en même temps un bon support pour ceux qui veulent connaître. Et surtout, ça nous permet aussi de dire que voilà, la Palestine, elle n'est pas oubliée, parce qu'il y a des gens qui vont sur place, ils découvrent, et puis ce qui est intéressant surtout, c'est de revenir et de témoigner. Parce que c'est en même temps le témoignage des Palestiniens, quand ils nous disent... venez, et puis quand vous repartez, allez témoigner de ce que vous, vous avez vu.
Mais il faut y aller, voilà, faut y aller, rencontrer, voir, puis les Palestiniens sont très accueillants.
Parce que c'est pas qu'un voyage touristique, c'est un voyage
bien,
aussi de soutien, de solidarité. Voilà, on était ravis de te recevoir, et puis à une prochaine, et puis on aura l'occasion de se revoir dans d'autres occasions. En tout cas, c'est le but de l'émission, et puis de faire intervenir des gens qui sont sur place, ou même des gens qui sont jamais allés, mais qui maîtrisent certains aspects de la question palestinienne. Pour info, pour revenir, il y a un film qui est passé sur Villefranche, mais qui continue à passer en région Rhône-Alpes, c'est le Char et l'Olivier, je vous le conseille vivement. Son réalisateur, on a eu l'occasion de le recevoir il y a quelques mois, Roland Nurier. Son film marche très très bien. Donc, j'ai pas les dates, j'ai pas les endroits où actuellement il passe en région. Mais si vous pouvez aller sur le site du Char et l'Olivier, je vous le conseille vivement. C'est un film qui retrace, avec cette narration et cette chronologie, qui retrace l'histoire de la Palestine. Voilà pour ce soir. On a été ravis et on continuera à vous informer... sur la Palestine et sur le sort des Palestiniens. Palestine ici, Palestine là-bas. À une prochaine, et au mois de février pour une autre thématique concernant toujours la Palestine.